Choix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 mai 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, en Côte d'Ivoire, un proche de Guillaume Soro, entendu par la police dans le cadre d'une affaire de cache d'armes découverte à Boaké. Égypte, au moins 26 coptes ont été tués par des hommes armés alors qu'ils se rendaient dans un monastère.
Le régime, le gouvernement, le président même, il refuse de pas d'évoquer un échec du ministère de l'Intérieur ou des services de sécurité.
En République centrafricaine, environ 300 personnes ont été tuées ces deux dernières semaines. Et au Burundi, le gouvernement encourage les couples à se marier. Retrouvez Bagassi Koura à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Les suites de la dernière mutinerie en Côte d'Ivoire, le chef du protocole de Guillaume Soro, président du Parlement, était ce matin devant les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Souleymane Camarate, dit Soul to Soul, a été entendu sur les armes découvertes à son domicile en pleine mutinerie à Boaké. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
L'audition de Souleymane Camarate dit Soul to Soul par les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie a duré 2h20 au cours desquelles le chef du protocole de Guillaume Soro s'est expliqué sur les armes découvertes dans l'un de ses domiciles de Boaké en pleine mutinerie. Touré Moussa est directeur à la communication de l'Assemblée nationale. Il était aux côtés de Souleymane Camarate pour cette audition.
Des questions lui ont été posées sur cette affaire de caisses d'armes qui ont été trouvées à son domicile. On peut dire que l'atmosphère était assez courtoise. C'est on peut retenir de ça, c'est que, un, il n'est pas l'acquéreur de ses armes, il n'est pas le propriétaire de ses armes, donc ils se sont entendus pour continuer l'audition le lundi à 10h.
Lors de la mutinerie des 12, 13, 14 et 15 mai dernier à Boaké, des soldats mécontents se seraient renforcés en armes et munitions en s'approvisionnant dans une présumée cache d'armes dans l'un des domiciles de Souleymane Camarate. Comment ces armes se sont-elles retrouvées là et à qui appartiennent-elles? L'enquête ouverte permettra peut-être de répondre à ces interrogations, mais d'ores et déjà, certains proches du chef du Parlement ivoirien évoquent la piste du complot. Pour eux, cette affaire n'est rien d'autre qu'une cabale qui vise leur chef, Guillaume Soro, potentiel candidat à la présidentielle de 2020. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dément toute implication dans la lapidation présumée d'un couple non marié dans le nord-est du pays. Nouvelle alliance entre djihadistes du Sahel liés à Al-Qaïda, principale force islamiste armée dans la région, le groupe conteste même la réalité des faits. Et Niger, le procès de l'opposant et ex-député Amadou Djibo Ali va se poursuivre lundi, a annoncé aujourd'hui l'un de ses avocats. Le juge a estimé que les exceptions que nous avons soulevées ne sont pas fondées, c'est ce qu'a déclaré maître Moukaila Yaye, accusé de complot visant à renverser le président Mahamadou Issoufou. Amadou Djibo Ali avait été incarcéré le 18 mai à la prison de Niamey. On lui reproche notamment d'avoir appelé en langue djerma au renversement du président nigérien lors d'une intervention le 12 mai. Et Niger toujours, l'hépatite E a tué 30 personnes dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria, qui abrite quelques 300 000 déplacés et réfugiés qui ont fui les violences du groupe Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Au total, 660 cas déclarés suspectés et confirmés ont été recensés au 23 mai. Plus de 3000 morts dans le centre de la République démocratique du Congo depuis le début de l'année. Tel est le bilan annoncé par Déli Sesanga, député d'opposition, faisant référence aux violences entre une rébellion et les forces de sécurité au Kasaï. Il s'agit de l'élu de Louisa, territoire de la province du Kasaï central, d'où est partie en septembre dernier la rébellion Kamuina Msapu. Éthiopie, un journaliste a été condamné à 18 mois de prison pour avoir communiqué avec un dissident, Getachew Shérifa, directeur en chef d'un journal éthiopien en ligne lié au parti d'opposition Semawiyawi, est en détention depuis son arrestation en décembre 2015. Cela signifie, selon son avocat, qu'il pourrait être libéré d'ici à la semaine prochaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Égypte, au moins 26 Coptes ont été tués par des hommes armés et masqués alors qu'ils se rendaient en bus dans un monastère situé à quelques 200 km au sud du Caire. Les précisions de Tatiana Mosso.
Selon le ministère égyptien de l'Intérieur, des hommes masqués à bord de trois pick-up ont criblé de balles le bus qui se rendait au monastère de Saint-Samuel dans la province de Minya. Les assaillants ont ouvert le feu à l'arme automatique et ont pris la fuite après le carnage, rapporte Essam El-Bedawi, gouverneur de la province. Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite basée au Caire, a condamné cette attaque qui a eu lieu à la veille du début du Ramadan. Le grand imam Ahmed Al-Tayeb l'a qualifiée d'inacceptable et affirmé qu'elle visait à déstabiliser le pays. Depuis 6 mois, le groupe État islamique a revendiqué des attaques contre les Coptes, dont des attentats suicides contre 2 églises qui ont fait 45 morts début avril au nord du Caire. Une autre attaque suicide contre une église copte en plein cœur de la capitale a fait 29 morts en décembre dernier. Après la double attaque du jour des rameaux contre cette minorité religieuse, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avait déclaré l'état d'urgence pour 3 mois.
De violents combats ont eu lieu aujourd'hui à Tripoli en Libye, opposant des groupes armés rivaux. La capitale libyenne a été secouée donc par des explosions et des tirs d'artillerie. Au moins 5 personnes ont été tuées. Anastasie Tudiech.
Les combats ont commencé à l'aube dans les quartiers d'Abou Slim, Adba et Salah Eddin dans le sud de Tripoli. Des chars et armes lourdes ont été déployés au milieu de quartiers résidentiels. Des forces loyales au gouvernement d'Union nationale et des groupes rivaux se sont affrontés. Les combats ont commencé autour d'un complexe d'une dizaine de villas luxueuses qui servaient de quartier général à des milices fidèles à l'ancien chef d'un gouvernement non reconnu, Khalifa Gweil, écarté du pouvoir après la formation du GNA. Le responsable d'un hôpital à Tripoli a fait état d'un bilan préliminaire de 5 morts et de plusieurs blessés, dont des civils. Le ministère de la Santé libyen a décrété l'état d'alerte et tout le personnel médical doit se rendre dans les hôpitaux. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, Tripoli est sous la coupe de dizaines de milices.
Ici aux États-Unis, le gendre de Donald Trump est visé par l'enquête du FBI, mais sans que cet influent conseiller soit pour autant la cible de l'enquête de la police fédérale. C'est ce que rapportent des médias américains. Les enquêteurs se concentrent sur une série de réunions de Jared Kushner dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, affirme le Washington Post, citant des sources proches de l'enquête. Les dirigeants du G7 ont commencé un sommet de 2 jours à Taormina en Italie. Ils sont appelés à faire un front uni contre le terrorisme, à défaut de s'entendre sur le changement climatique ou le commerce international, les précisions de John Lindon.
Ce ne sera pas une discussion facile, avait prévenu le chef du gouvernement italien dont le pays préside actuellement le G7. L'Italie a promis de tout faire pour rapprocher les points de vue. Après les attentats de Manchester, les pays du G7 devraient réaffirmer leur engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme. Le réchauffement climatique, sujet sur lequel le président américain Donald Trump refuse toujours de se prononcer, y compris sur l'accord de Paris, sera le plus compliqué. L'autre sujet sensible porte sur le commerce international et le rôle d'arbitre de l'OMC, où les États-Unis veulent réviser leur position. Gary Cohen, conseiller économique du président Trump, a dit s'attendre à une discussion ferme sur le sujet. Nous allons continuer à nous battre pour ce que nous pensons juste, c'est-à-dire un commerce libre, ouvert, mais équilibré, a-t-il assuré devant la presse.
Et en raison de ce sommet du G7, les débarquements sont interdits cette semaine en Sicile, ce qui rallonge le trajet des navires de secours en Méditerranée. Et conséquence, des milliers de migrants étaient encore en détresse ce vendredi au large de la Libye, alors que les quelques 6400 secourus ces derniers jours arrivaient en Italie ou étaient encore en route dans des conditions souvent difficiles. Conflit en Syrie, un nouveau bombardement aérien de la coalition dirigée par Washington a fait au moins 80 morts, dont 33 enfants, parmi les familles de combattants du groupe djihadiste État islamique dans l'est du pays. Ce nouveau bilan est rapporté au moment où le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté aujourd'hui les forces aériennes de tous les États intervenant en Syrie à mieux distinguer les civils des cibles militaires, soulignant que les djihadistes sont mêlés à la population et les empêche de fuir. Et enfin, du nouveau sur l'attentat de Manchester. La bombe utilisée était un engin artisanal puissant, équipé d'un détonateur sophistiqué, que le jeune kamikaze Salman Abedi n'a très vraisemblablement pas conçu tout seul, selon des experts. La bombe a explosé lundi vers 22h30 au niveau d'une des sorties d'une salle de concert où venait de se produire la chanteuse américaine Ariana Grande, faisant 22 morts et 75 blessés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
C'est finalement devenu une réalité. La Guinée équatoriale, troisième producteur pétrolier d'Afrique, est devenue officiellement membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Sa demande d'adhésion, faite en janvier dernier et soutenue par l'Arabie Saoudite, a été acceptée hier lors d'une réunion au siège de l'OPEP à Vienne. La Guinée équatoriale devient ainsi le 14e membre du cartel et 6e d'Afrique. En retour à la demande de Riyad, Malabo va participer aux baisses de production de pétrole pour peser sur les prix. La Côte d'Ivoire entend créer des fonds d'investissement pour le développement du tourisme en vue de faire de ce secteur le 3e pôle économique du pays. Le ministre du Tourisme, Siyandou Fofana, a ainsi reçu une délégation d'experts du groupe Atijari Wafa Investment Bank, connu notamment pour avoir investi massivement dans des projets touristiques et hôteliers au Maroc. Le Rwanda a obtenu, après le feu vert de la Banque mondiale, un prêt de 81 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour financer la phase rwandaise du programme de transport du lac Victoria, qui couvre également la Tanzanie et l'Ouganda. Le projet vise à améliorer la sécurité et circulation des personnes, des biens et services le long de ce corridor régional.
Allez, au pas de course, Bagassi Koura, les sports, bonsoir.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Oui, la Guinée a pris une raclée 5-0 face à l'Argentine ce vendredi. La Guinée est donc éliminée. L'Angleterre a battu la Corée 1-0, défaite 1-0 du Mexique contre le Venezuela dans le groupe B, victoire de l'Allemagne sur le Vanuatu 3-2 dans le même groupe. Après des débuts en fanfare contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a chuté hier contre les États-Unis. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire après la demi-heure de jeu. Les États-Unis s'emparent de la tête du groupe F avec 4 points. Les Sénégalais auront l'occasion de se ressaisir contre l'Équateur, ce sera dimanche, tandis que les États-Unis tâcheront de confirmer contre les Saoudiens.
Et un résultat en amical sur le continent hier.
Oui, c'était entre le Bénin et le Ghana et c'était à Accra en préparatif pour le CHAN 2018. Le Ghana et le Bénin se sont départagés sur le score de 1-0 au stade d'Accra.
En football toujours, l'ailier Wilfried Zaha a prolongé de 5 ans son contrat, le liant à Crystal Palace.
Oui, c'est en Angleterre. L'international ivoirien de 24 ans avait été transféré à Crystal Palace à Manchester United, en 2013 avant de revenir dans son club formateur 2 ans plus tard. Il a marqué donc 34 buts en 258 matchs avec l'équipe londonienne. La prolongation de Zaha intervient 2 jours seulement après le départ pour des raisons familiales de l'entraîneur Sam Allardyce arrivé à la mi-saison.
Luis Suarez, incertain avec l'Uruguay.
Oui, l'attaquant uruguayen blessé à l'entraînement jeudi avec son club du FC Barcelone devrait manquer les rendez-vous amicaux de l'Uruguay contre l'Irlande et l'Italie début juin.
Enfin, la NBA, Cleveland retrouve Golden State.
Oui, on connaît le tableau ultime, hein. Cleveland contre Golden State. Le champion titre a décroché hier son billet pour sa troisième finale de NBA grâce à LeBron James, sa superstar, qui a écrit une nouvelle page de sa légende avec une septième finale d'affilée.
Merci, Baga.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec, en votre compagnie. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. La minorité copte de nouveau endeuillée en Égypte à la suite de l'attaque ce vendredi par la branche locale du groupe État islamique d'un bus se rendant au Caire à un monastère de la province de Minya. Pour faire le point, Timothée Dodongmaï a joint dans la capitale égyptienne notre confrère Chérif Albert.
Jusqu'à présent, il y a deux décomptes. Il y a officiellement ces 26 morts. L'Église parle de 35 victimes.
Et ces personnes se rendaient au monastère de Saint-Michel à quelle occasion?
En fait, il n'y a pas d'occasion précise parce que les églises en Égypte, ils font ce genre d'activités, des excursions, des visites de monastères régulièrement. C'est juste peut-être parce que les enfants viennent de prendre leurs vacances. Donc c'est une excursion comme à l'école.
Cela fait plusieurs mois que le groupe État islamique s'en prend à la communauté copte en Égypte. Est-ce à dire que les mesures de protection à leur faveur ont échoué?
Oui, ça c'est évident, mais jusqu'à présent, le gouvernement, le président même, il refuse d'évoquer un échec du ministère de l'Intérieur ou des services de sécurité. Ils essayent de donner un os à mordre aux médias pour parler, par exemple, du discours islamiste, pour attaquer telle ou telle institution, tel ou tel groupe. Donc, ils veulent divertir l'attention vers d'autres sujets. Ils parlent de tout sauf de la performance des services de sécurité qui sont bien entendu consacrés à pourchasser et poursuivre les opposants. Ils n'ont pas la priorité de protéger les citoyens en échéant sur le camp.
Le grand imam de l'université islamique Al-Azhar du Caire a condamné l'attaque de ce vendredi. Quelle est la portée de cette condamnation?
C'est une condamnation de routine, comme le font tous les responsables politiques ou religieux. Ça n'a pas vraiment un sens spécial.
Quel avenir pour la minorité copte en Égypte dans ces conditions?
Jusqu'à présent, c'est vraiment la panique, c'est la colère, mais il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il n'y a pas vraiment un plan sérieux qui vise à renforcer la protection des Coptes ou à prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et les gens ont fini par se demander est-ce que le régime lui-même ne profite pas de tels attentats terroristes pour légitimer sa présence et son existence.
Comment les Coptes vivent-ils quotidiennement face à cette situation?
Il n'y a pas de danger dans la vie quotidienne. Il y a juste un danger dans les rassemblements coptes, notamment au sein des églises, des lieux de culte, ou comme l'incident d'aujourd'hui, quand il y a des activités en dehors de l'église, des excursions, des visites au monastère, etc. Donc c'est les rassemblements coptes qui sont visés.
Le journaliste égyptien Chérif Albert, joint au Caire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les violences qui persistent en République centrafricaine. Environ 300 personnes ont perdu la vie et quelques 100 000 ont été déplacées au cours des deux dernières semaines, selon l'ONU et le gouvernement. Il s'agit du plus important déplacement de population depuis la guerre civile en 2013. Les combats ont frappé les villes de Bria, Bangassou et Alindao, où sont restées actives les milices anti-Balaka et ex-Séléka. Nathalie Barge a joint le député de Bangassou, Serge Singabanga.
À Bangassou, les communautés musulmanes ont été obligées de se réfugier d'abord à la mosquée, puis aujourd'hui au niveau du petit séminaire de l'église catholique. Et il y a aussi une bonne partie de la communauté chrétienne qui est réfugiée également à l'église au niveau de la cathédrale. On a rencontré les membres de différentes communautés, l'évêque de Bangassou, Monseigneur Aguéré, et les responsables des organisations humanitaires là-bas. Et aujourd'hui, l'urgence est véritablement de venir en aide à toutes les populations déplacées qui sont sur les sites, qui sont aussi au niveau de l'hôpital régional de Bangassou.
Combien de personnes ont été tuées et combien ont été déplacées ces deux dernières semaines?
Les déplacés sur le site sont estimés à plus de 4000, mais il faut dire que c'est fluctuant. C'est les gens qui fuient, qui arrivent, qui repartent, et qui essaient de traverser. Il y en a beaucoup qui ont traversé le fleuve. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 150 tués. D'autant plus qu'au moment où je vous parle, hier encore, il y a eu des tués, il y a eu des combats qui opposaient les forces des Nations Unies et les militants qui s'autodésignent autour des forces. Si je vous parle de Bangassou, je vous dis ce que la communauté musulmane a vécu, mais quand vous allez à Bria, quand vous allez à Alindao, quand vous allez à Mobaï ou dans les environs de Mobaï, ce sont les chrétiens qui sont aujourd'hui massacrés par l'UPC, Talib Daras. Effectivement, par exemple à Bria, le quartier chrétien lui a été brûlé parce que la branche Séléka avait décidé de venger les musulmans du Bomou.
Mais n'y a-t-il pas un programme de désarmement et de démobilisation en Centrafrique et pourquoi ces milices ne prennent pas part à ce programme?
Le gouvernement, effectivement, a lancé ce programme de démobilisation, de désarmement, réinsertion et rapatriement. Malheureusement, les différents groupes armés, comment dire, ils ont généralement un double langage, c'est-à-dire que ils viennent au niveau de Bangui dire au gouvernement qu'ils sont partie prenante à ce programme et en réalité, sur le terrain, ils continuent à renforcer leur position pour continuer à profiter des richesses du pays. Parce que quand vous remarquez, généralement ces groupes sont installés dans les zones diamantifères où il y a de l'or, du café, du poivre, dans les zones où ils peuvent profiter du bétail, enfin bref. Vous savez, on est dans un pays qui a énormément de richesses, qui aujourd'hui, avec ce problème de l'embargo sur les armes, n'a pas une armée qui a des armes. C'est un appel d'air pour tous les prédateurs du monde entier, à mon sens, hein, qui viennent là et qui utilisent les dysfonctionnements qu'ils peuvent utiliser pour manipuler les populations qui se battent et pendant ce temps, eux, ils s'enrichissent.
Serge Singabanga est député de Bangassou en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Sénégal, les bâtiments vieillissants font des victimes. 225 effondrements et 13 morts en une année. Près de 350 bâtiments qui menacent de s'effondrer. Des statistiques de la Direction de la Protection Civile montrent que plusieurs bâtisses représentent de véritables dangers pour la population. Les principales causes sont le manque de respect des normes de construction et de sécurité, la mauvaise qualité des matériaux, la vieillesse des bâtiments. Reportage à Dakar de Seydina Abagay.
Deux bâtiments délabrés qui se font face ornent le décor de la rue 33, angle 18 du populaire quartier de la Médina. Les pans fissurés des murs et les fers rouillés qui débordent du balcon marquent leur vétusté. Si l'un des bâtiments a fini par être déserté par tous ses occupants, l'autre est toujours en location. Les habitants ne semblent pas vraiment conscients du danger. Mustapha Gueye, un locataire de la maison, affirme ne pas trop s'inquiéter.
J'habite dans cette maison depuis 20 ans. J'ai assisté à plusieurs effondrements partiels de ce bâtiment. Ils ont rajouté un deuxième étage alors que la dalle du premier niveau ne tenait plus. C'est ce qui a mis le bâtiment dans un piteux état et rendu les effondrements fréquents.
Les bailleurs sont indexés à cause de leur cupidité et de leur recherche effrénée du profit. Ils sont en plus accusés de ne pas respecter les droits des locataires. Parfois aussi, leurs problèmes personnels se transposent sur la vie de leurs clients. Fatou Ndiaye apporte son témoignage.
L'héritier de la maison n'accepte toujours pas de réfectionner la bâtisse. Depuis le décès de leur père, ils prétextent toujours un problème d'héritage. Ils ont juste refait l'intérieur de deux chambres puis ont arrêté les travaux. En plus, ils ont procédé à une augmentation du loyer malgré l'état de délabrement très avancé.
Ousmane Fall, riverain du quartier, dit toute son inquiétude quant aux risques qui peuvent s'abattre sur les riverains et les habitants.
C'est un danger permanent, nous deux, parce que même les habitants,
on côtoie le danger en permanence. Même les habitants de l'immeuble rencontrent d'énormes difficultés avec certaines parties de la dalle qui tombent souvent sur eux. Par contre, les vendeurs qui sont devant le bâtiment ne se soucient pas du tout du danger alors que le balcon peut s'effondrer à tout moment.
Mais vraiment,
la capitale sénégalaise a une bonne place sur la carte des bâtiments en ruine. L'état de délabrement très avancé des bâtisses alerte sur les dangers imminents qui guettent les populations. Malgré les efforts des autorités étatiques et la vigilance de la direction de la protection civile, les problèmes sont légion. À l'approche de l'hivernage, habitants et riverains de ces vieilles bâtisses s'inquiètent du danger qui les guette. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Depuis le 1er mai, les couples burundais ne cessent de parler du discours du président qui exhorte ceux qui pratiquent l'union libre ou le concubinage à légaliser leur situation. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour se marier. Eki Abadou a joint à Bujumbura Alain Diomède Nzeyimana, le porte-parole adjoint du président Pierre Nkurunziza.
Ces mariages constituent indirectement un problème d'insécurité. Étant donné que le mari qui ne reconnaît pas la femme, des fois ne reconnaît pas les enfants, et c'est-à-dire que ces enfants ont des difficultés d'accéder à l'école et même des soins de santé, parce que s'il y a par exemple de la politique de gratuité des enfants, gratuité des soins de santé, je veux dire, vous voyez qu'il y a par exemple des documents que l'on demande, la plupart des fois ces enfants pas de certificat de naissance et des cartes d'identité sont difficiles à obtenir et ça devient un problème.
Donc pour vous, vous pensez que cette mesure, si elle devait venir à être effective, va permettre de protéger les enfants?
Oui, naturellement. Vous avez par exemple qu'il y a un problème d'hériter par exemple d'un terrain ou d'une parcelle ou de propriétés qui appartiennent aux parents après par exemple leur mort. Et à un certain moment, si vous êtes le résultat d'un mariage illégal, il sera difficile de pouvoir réclamer quelque chose.
Mais en même temps, on parle de moralisation de la société.
Ok, la moralisation de la société, c'est prendre conscience de ce qu'être un citoyen burundais devrait être. Ce que l'amour de la patrie devrait être. Parce que dans notre histoire, dans l'histoire du Burundi, il s'est fait que des gens au XXIe siècle commencent à oublier les mœurs, la culture du Burundi. Et à un certain moment, il faut de n'importe quoi.
L'administration met des pressions à ces couples pour se légaliser d'ici le 31 décembre. Est-ce une volonté du gouvernement que l'administration mette la pression sur ces couples?
Ce n'est pas de la pression parce qu'il y a une éducation qui est claire. On leur donne l'avantage d'être dans la légalité. Et si c'est possible, parce que je ne crois pas que ce soit vraiment un nombre très large de ces couples. Et si ça pouvait être régularisé le plus tôt possible, ce serait une bonne chose.
Et voilà, c'était Alain Diomène Zeyimana, porte-parole adjointe du président Pierre Nkurunziza.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Souleymane Sarawalé à la console. Présentation, Morgan Diriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.